Alors, mon parcours musical, bah, j'ai commencé ouh là là, la guitare il y a des années au collège, comme beaucoup d'adolescents, quoi. Et j'ai fait mes premiers groupes de métal un petit peu. J'ai fait du prog aussi, beaucoup de prog pendant pas mal d'années. Et puis après j'ai créé 633 à l'origine comme un side project d'un groupe de prog que j'avais. Et puis finalement, ce side project, pardon, side project a pris toute la place, quoi, et voilà.
Ok, le choix de la guitare, c'est venu comment?
Bah alors déjà, voilà, tu chopes quand même plus facilement de filles quand tu fais de la guitare, hein, ça il faut quand même.
D'accord.
Bah ouais, c'est quand même. Non, je sais pas, je trouvais. Bah tout. Mon père adorait quand j'étais gamin, il adorait Pink Floyd, Santana, et j'ai toujours adoré les guitares, entre guillemets, les guitares héros un petit peu de cette époque-là, quoi. Et c'est toujours un instrument qui m'a fasciné, quoi. Donc la question s'est même pas posée quand j'ai commencé, quand j'ai ado, j'ai commencé un instrument. Pour moi, c'était la guitare.
D'accord. Et donc tu conserves comme ça des guitaristes références qui pour toi restent vraiment sans être de l'admiration, mais tu vois quelque chose de des gens que tu suis ou que tu as suivi qui sont morts?
C'est moins le cas aujourd'hui, mais je sais que quand j'ai commencé la guitare et que j'étais ado, j'avais beaucoup d'admiration pour tous les Shred un petit peu de l'époque, quoi. Steve Vai, Satriani, j'ai adoré Petrucci de Dream Theater. Ouais, voilà, c'est espèces de guitaristes qui m'ont toujours un peu fasciné. J'écoute beaucoup moins aujourd'hui de musique instrumentale, de musique un peu shred, quoi. Mais ouais, c'est vraiment des gens des artistes qui ont façonné un peu mon, qui ont façonné, mais qui m'ont inspiré un petit peu dans mon jeu de guitare, quoi.
D'accord. Juste pour là, toujours continuer un peu sur ce côté guitariste, tu joues sur quoi comme instrument?
Je joue sur PRS. PRS, c'est PRS, c'est Steven Wilson,
C'est un modèle en sur un modèle en particulier?
C'est la Custom, c'est une des ré enfin une des références, une des plus vieilles PRS. Bah, voilà, c'est un modèle des années 90. Voilà.
Tout ce qui est 7 cordes, 8 cordes, les trucs machin, ce type, les trucs ultra techniques, un peu madcore, ça t'intéresse tout ce truc-là ou pas du tout?
Ah, honnêtement, j'ai eu une 7 cordes, j'ai une 7 cordes, et j'ai du mal à me, je sais pas, ça me fait toujours bizarre. Je préfère à la limite une baryton, tu vois. Mais dès que je passe sur une 7 ou alors 8 cordes, j'ose même pas imaginer, ça me, alors il faut évidemment un temps d'adaptation, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Je suis pas bien. Je suis pas bien, donc non, je suis pas très très 7 8 cordes, quoi.
D'accord, ok. Imagine, pour je ne sais pas quelle raison, ton nom arrive au firmament du business musical des guitaristes et on t'a un deal avec, ce que je te souhaite, hein, t'as un deal avec un, tu vois, pour une guitare signature. C'est un genre de, ça reste hypothétique, hein, parce que c'est un truc qui t'intéresserait ou pas du tout?
Alors oui, carrément, bien sûr, carrément. Mais j'adorerais, moi, ouais, avoir un deal avec PRS. C'est une marque de guitare que j'adore, qui est ultra polyvalente. D'ailleurs, on le voit dans toutes les personnes qui l'utilisent. Enfin, PRS, c'est des mecs comme Santana, comme Wilson, comme le chanteur d'Opeth. C'est hyper polyvalente comme guitare, quoi. Donc j'adorerais vraiment. Et puis surtout, c'est des guitares chères, faut pas se leurrer. Elles coûtent vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, oui, j'adorerais faire du bise-bise avec eux, ça c'est clair et net.
Je dois bien avouer que je connaissais pas la marque. Moi, je connais les grandes marques très les connues qui mènent tout un chacun. C'est très typé comme guitare au niveau de son ou c'est plus justement quelque chose de avec d'énormes guillemets sans être péjoratif neutre. Et après, c'est le musicien qui apporte sa patte.
Ouais, c'est des guitares, enfin neutres, oui, c'est relativement neutre. Elles sont pas aussi typées que certaines
Jackson ou voilà, ouais.
voilà que Jackson ou oui c'est des guitares assez neutres et tu peux en faire quand même tu peux en faire quand même beaucoup de choses quoi. Elles sont très très cristallins, très sont claires, vraiment magnifiques. Non, c'est des très belles guitares. Bon, c'est pas évidemment c'est pas pour faire du trash
Oui.
voilà, c'est pas mais ça reste quand même des guitares très polyvalentes quoi.
Ok. On avait eu contact avec vous, j'avais fait une interview à l'époque avec Monsieur Rousseau en 2015
Ouais.
pour la période Deadly Sins.
Exactement.
A posteriori, qu'est-ce que tu retiens en particulier de ce chapitre-là?
Deadly Sins, waouh, ben
Est-ce qu'il y
des.
a un événement, tu vois, où, que ce soit en studio ou sur scène après, qui pour toi serait un peu, tu vois, résumerait un peu toute cette période-là?
On a fait tout un spectacle autour de cet album-là qui était très où on a poussé vraiment les choses un peu à l'extrême. Il y avait un écran sur scène, on était tous déguisés. Ouais, on s'était vraiment pris la tête pendant des mois et des mois pour construire vraiment un spectacle. Et du coup, ouais, j'ai le souvenir que ça a été quand même. On a pas défendu autant. On n'a pas défendu autant cet album sur scène qu'on aurait voulu le faire, mais le peu qu'on a fait, c'était vraiment des dates vraiment cool. C'était vraiment un spectacle qu'on avait construit, qui était vraiment génial, quoi.
Justement, donc tu mentionnes le Asylum Picture Show 2.0,
Exactement.
dont la première date, vous l'avez ouvert, vous avez comment dire, fait face au feu au Divan du Monde.
Exactement.
On se sent comment à quelques minutes de monter sur scène?
Bah, celle-là, au Divan du Monde, on se chie dessus, hein. Enfin, on n'est pas du genre nerveux, quand on va pour monter sur scène, mais c'est vrai que celle-là, enfin, disons que ce qui nous rendait nerveux, c'était l'à côté. C'était tout le côté technique, finalement, qui avait aucun rapport avec notre instrument, quoi. Et c'était presque ça qui nous faisait plus stresser que notre propre jeu, notre propre prestation, quoi. Voilà, ça, on travaille pour ça, on répète pour que ce soit plus ou moins carré, mais un ordinateur qui plante, un rétroprojecteur qui crame, enfin, c'est des choses qui nous faisaient stresser, parce que voilà, c'était la grande première, et on a commencé par le Divan du Monde, alors qu'on aurait dû finir par le Divan du Monde, on aurait dû rôder tout ça pendant des dates et des dates, et finir à Paris sur le Divan du Monde, mais on a fait l'inverse, on a commencé par cette date-là qui était géniale, quoi. Mais c'est vrai que ça a été le baptême du feu, quoi. Puis les gens étaient dingues, ils étaient dingues, et ça a été un sacré baptême du feu, quoi.
D'accord. J'ai peut-être l'idée qui est fausse, ou en tout cas cliché, ou qui s'adresse pas, qui se s'applique pas à 633. De dire qu'un groupe, quand il finit une période, un chapitre, et qu'il se dit, je vais attaquer la période suivante par un nouvel album, ils discutent un peu entre eux pour savoir quelle orientation ils donnent. Alors, t'es une des muses créatrices du groupe, donc tu t'es laissé naturellement composer, et puis t'as vu où tu allais, ou t'en as discuté plus avec les autres?
Non, on n'en a pas discuté du tout. On n'en a pas discuté du tout. C'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que ça s'est fait par la force des choses. C'est-à-dire que je suis arrivé à une période de ma vie où j'étais un petit peu nostalgique, je trouve. Voilà. Et puis même, je trouve que le monde en ce moment, que ce soit dans la pop culture, dans le cinéma, on est dans une espèce d'ambiance qui se tourne beaucoup vers l'arrière, vers les années 80, 90. Et du coup, je savais pas exactement où j'allais, mais je savais que je voulais essayer de créer comme une espèce de petite Madeleine de Proust, tu vois, de faire un album un petit peu aux couleurs et aux ambiances qui ferait vraiment écho à ce qu'on aimait quand on était gamin ou ado, quoi. Et voilà, je trouve que cet album-là, il a des sonorités qui vraiment nous ont bercé quand on était beaucoup plus que les autres albums, je trouve.
Et d'ailleurs, de mémoire, sur un des derniers visuels du single, vous la jouez très synthwave, même si la musique est pas vraiment dans ce domaine-là, même s'il y a bon, bien entendu des claviers et autres. C'était un clin d'œil sur le. Avec
Bah
les.
dis donc.
Ouais, tu vois, avec. Enfin, sur le lettrage, les trucs un peu flashy.
Disons que oui, c'est-à-dire que le synthwave, tout ce mouvement-là, il s'appuie sur une imagerie qui est très années 80, c'est clair et net. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé à marcher un petit peu sur les plates-bandes de ce genre-là, parce que forcément, oui, forcément, dès que tu tournes et dès que tu essaies de rendre un petit peu un hommage à ces années-là, y a déjà une grosse mouvance là-dessus, quoi. Mais voilà, quoi, c'est. Mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi, c'est tout un genre, la synthwave, tout un genre qui se repose, qui repose sur cette imagerie-là, c'est clair.
D'accord, ok, d'accord. Finalement, entre les deux albums, donc tu disais, en plus, il y avait eu tout le travail autour du spectacle, donc en 2017, mais entre les deux albums, il y a quand même une période assez longue. C'est beaucoup dû à la crise actuelle qui a reporté les choses ou.
Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors déjà, quand l'album est sorti en 2015, on a fait pas mal de concerts pour essayer de le défendre, quoi. Et puis finalement, quand on s'est remis à composer l'album, il y a des choses de la vie de tous les jours qui font que, enfin moi, je suis devenu papa. Et finalement, ça, je suis devenu papa. Puis après, on s'est mangé la pandémie. Donc ça, plus ça, c'est vrai que ça a quand même retardé beaucoup. Beaucoup les choses, quoi. Et du coup, on s'est retrouvé à mettre 4 ans pour finir cet album, quoi. On n'avait jamais mis autant de temps pour écrire et enregistrer un album, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est dû à la pandémie et aussi à certains changements dans notre vie, quoi.
Bien
Même
sûr, bien
à
sûr.
tous, quoi.
Est-ce que de ton point de vue, consciemment ou inconsciemment, justement, toute cette crise a coloré d'une façon ou d'une autre l'album?
Pas vraiment, parce qu'il était plus ou moins composé avant que ça arrive. Quand la pandémie a commencé, j'ai fini le dernier morceau de l'album, et la pandémie a eu des mauvais côtés, mais aussi des bons côtés dans le sens où j'ai eu pas mal de temps pour enregistrer certaines choses que j'enregistrais chez moi, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on enregistre un album, tout ce qui est voix, tout ce qui est guitare, basse, tout ça, on l'enregistre chez moi dans mon studio, et
D'accord.
après, tout le mixage, on le fait chez Manu.
OK.
Du coup, c'est vrai que quand moi j'ai dû enregistrer tout ce qui me concernait, ah, c'était génial. J'avais tout le temps pour ça, c'était terrible. Par contre, quand il a fallu que j'enregistre Flo, le chanteur, quand il a fallu que j'enregistre Bénédicte, qui fait les voix féminines, là, ça a été un petit peu compliqué, quoi. C'est là où on a, puis même pour mixer l'album, quand tu dois aller mixer chez quelqu'un et que c'est le couvre-feu ou que c'est le machin, enfin, c'était compliqué, quoi.
Ouais,
C'était, ça a été compliqué.
faut
Mais
beaucoup arriver
l'album,
21h ou 23h, ça devait être compliqué,
ah
ouais.
ouais, ah mais c'est clair, c'est clair. Donc du coup, mais l'album en lui-même était fini en fait avant la pandémie, donc
D'accord.
et voilà, ça a pas affecté l'écriture en lui-même.
Ok, parce que c'est vrai que pour certains, et c'est pour ça que j'essayais de rebondir dessus, parce que pour certaines personnes, justement, la crise a développé un sentiment de nostalgie. Le avant c'était mieux, ce qui est toujours relatif, mais donc vous, c'est pas du tout le cas, ok.
Non, c'est pas du tout le cas, non, 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 pas du tout.
Donc justement, Emmanuel, il y a 6 ans, nous expliquait un peu que donc comment vous fonctionnez dans le groupe. Donc toi, tu arrivais effectivement avec des choses parfois très courtes, mais systématiquement comment dire, ultra, ultra complètes. C'est-à-dire, il disait, il peut venir parfois avec 25 secondes, mais c'est tout est calé, tout est posé, tout, il y a tout. Ça, c'est un élément important pour toi. Parce qu'il y a des groupes où le leader, entre guillemets, artistique va donner une trame et puis les autres vont un peu se mettre dessus. Toi, tu as une vue d'ensemble tout de suite de tout ce que tu veux?
Ouais, il faut que, même si il faut qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait même la ligne plus ou moins de chant, même si c'est pas des paroles, c'est du yaourt, hein, mais il faut que j'ai besoin de mettre toutes les couches pour voir si ça fonctionne en fait. Donc je peux pas juste travailler avec juste une partie de guitare, quoi. C'est pas possible. J'ai besoin d'avoir la vue sur l'ensemble du tableau pour voir si ça fonctionne ou pas, quoi.
Et donc tu fournis à tes camarades des maquettes très abouties.
Ouais.
D'accord.
Une fois que c'est fini, mais vraiment, après on part, mais c'est vrai que ça a toujours marché comme un duo, c'est-à-dire que j'ai toujours les retours, venaient plus de Manu, mais voilà, une fois que les morceaux sont finis, voilà, le bassiste vient enregistrer les parties pour de vrai, Flo met des paroles sur des sonorités au niveau des voix, quoi, et tout ça se fait après en amont. Mais c'est vrai que quand nous on enregistre l'album, les morceaux, on les a jamais joués en répète, pas une seule fois, quoi.
D'accord.
C'est un peu particulier, mais c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné.
Et donc c'est toujours un équilibre subtil. Donc quand tu disais, par exemple, ton bassiste vient et pose ses parties de basse réelles, tu modifies rien. Ça.
Alors, concrètement, on modifie rien, mais après, il se réapproprie un petit peu. Voilà, il faut que ce soit un petit peu vivant. Et
Bien
s'il y a des
sûr.
choses qui pensent, qui peuvent être améliorées, évidemment, il améliore le tout. Mais la trame, on va dire, la trame est là, quoi.
D'accord. T'es du genre à avoir dans ton téléphone des montagnes de petits fichiers avec des idées que t'as éventuées en prenant, je sais pas quoi, le métro dans ta bagnole ou autre, ou
Exactement, exactement. Ou dans les chiottes de mon boulot aussi. Je travaille dans
Ouais.
une boutique et des fois, je suis obligé d'aller m'enfermer pour chantonner un petit truc. Mais ouais, c'est exactement ça.
Et donc quand tu veux je veux dire, tu t'astreins à composer, tu fais un tri dans toutes tes idées et... Ou celles qui doivent rester te restent en mémoire de toute façon.
Alors, ben, ça dépend. Des fois, tu penses avoir une bonne idée, tu l'imagines dans ta tête, et puis quand tu commences à la mettre un petit peu en musique, quoi, tu t'aperçois que tu as du mal à la faire sonner comme elle sonne dans ta tête, quoi. Mais après, disons que je vais jamais au bout d'un morceau si je ne pense pas que ça peut donner un truc sympa. C'est-à-dire que j'ai énormément de démos qui font 40 secondes, 1 minute. C'est-à-dire que si j'ai pas ressenti le besoin de continuer le morceau, c'est que j'estimais que finalement il en valait peut-être pas la peine.
D'accord. Et donc finalement sur les 11 sur les 11 titres qui apparaissent sur l'album, tu en as finalisé, comme tu disais, 11.
Exactement, exact, c'est exactement ça. Et
Et bon,
après,
vas-y,
ouais.
pardon, vas-y.
Non, après j'ai des démos de choses qu'on n'a pas utilisées. Mais voilà, ouais, comme tu dis, les 11 que j'ai finis, c'est les 11 qui ont réussi à passer la ligne d'arrivée.
D'accord, et donc potentiellement sur Fairy Tales, il peut y avoir des choses que tu avais travaillées à l'époque d'Edley Sins, mais qui n'étaient pas assez matures, ou que tu n'avais pas travaillé comme il fallait, enfin tu n'avais pas trouvé la clé.
Il y a peut-être un morceau, oui, il y a peut-être un morceau ou deux, exactement. Ouais, qu'on avait commencé et qu'on n'arrivait pas à faire sonner. J'ai en tête, par exemple, un morceau qui s'appelle Hot Damn Chicas, qu'on n'arrivait pas à faire sonner. Ça a été une catastrophe, on n'arrivait pas à le faire sonner. Et puis on s'y est remis quelques années après. Finalement, on a réussi à. Voilà, mais sur le coup, on n'y arrivait pas.
Tu te souviens du premier titre que tu as finalisé sur les 11 de l'album?
Alors, le premier en démo, ouais, que j'ai fini sur l'album, c'est Holy Golden Bonheur.
D'accord, donc le deuxième de l'album.
Exactement. Je crois que c'était la première démo que j'avais finie pour cet album. D'ailleurs, je trouve que ça se ressent un petit peu. Je trouve que c'est le morceau qui a le plus ce côté d'Enlicine. C'est le seul qui aurait pu être sur d'Enlicine sans que ça choque, je trouve.
Et d'où la suite, c'est comment tu travailles ta tracklist? Comment tu définis ta tracklist?
Alors ça c'est un peu particulier parce que il y a même si c'est pas un concept album comment dirais-je
À
à grande
comparer?
échelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même une trame principale, une histoire qu'a créé Flo, et donc on est quand même tenu un petit peu de créer la cette liste par comment dirais-je, l'ordre doit quand même respecter une certaine trame en fait. Donc c'est vrai que des fois, la setlist est imposée un petit peu d'elle-même par rapport à ce que racontait chaque morceau, tu vois.
Oui, mais d'accord. Mais il y avait deux options. Soit tu d'avance t'avais ton ordre idéal entre guillemets titre et Rorschach venait poser son histoire et développer son histoire sur l'ordre que tu lui proposais, ou vous finissiez les différents morceaux et naturellement de par l'histoire qu'il avait développée, ça se construisait dans l'ordre.
Ben en fait, le morceau, quand on commençait le morceau, on avait une espèce une petite couleur générale ou un sentiment. On savait sans que Flo ait commencé les paroles, on savait au bout d'une minute de morceau que ce morceau-là nous servirait à peut-être pour tel passage de l'histoire ou pour mettre en avant tel sentiment du personnage. Et donc, Ben, du coup, ça a commencé à se placer un petit peu automatiquement dans l'album, tu vois, tel morceau, putain, bah oui, par rapport à ce qu'on va peut-être raconter ou ce que ça laisse sous-entendre au niveau des images qu'on imagine, bah ce sera peut-être au début, ou alors celui-là peut-être forcément à la fin. Enfin, tu vois, c'était voilà, ça c'est voilà.
D'accord. Avec les 6 ans d'écart entre l'enregistrement des deux derniers albums, est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu as changé, enfin, tu as amélioré ta façon d'enregistrer?
Complètement, ouais, complètement. Puis on a fait beaucoup de progrès avec Manu au niveau du mixage. Mine de rien, on se connaît, on se complète énormément avec les années. Donc oui, ça a quand même. Oui, ça. Puis même moi, quoi, j'ai appris à être un petit peu moins. Comment dirais-je? À peut-être en mettre un petit peu moins. J'ai affiné un petit peu ma façon d'écrire. Avec les années, quoi, évidemment.
D'accord,
Donc forcément.
parce que d'accord, ça reste très riche, très flamboyant, et donc si tu me dis que tu t'es restreint entre guillemets, qu'est-ce que ça devait être à l'origine? Enfin, il suffit d'écouter les premiers 633 pour voir à quel point ça peut aller, hein, mais.
Ouais, le premier est très. Ouais, et c'est oui. Ouais, mais quand tu vois, quand j'écoute le tout premier, je sens, on sent que je courais dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est pas que je me restreins, mais voilà, j'essayais d'arriver, comment dirais-je, comment peut-être essayer une efficacité ou une simplicité, quelque chose de plus direct, de plus,
Peut-être aussi l'effet de la scène, ça, non?
peut-être, puis ça a aussi un rapport avec le tu vois, c'était comme je te disais tout à l'heure, cette ambiance un peu 80s qu'on voulait mettre en avant sur cet album-là. On a beaucoup utilisé des très très vieux synthés des années 80, des très vieilles boîtes à rythme, mais c'est un style, je trouve, qui était beaucoup plus épuré, quoi. On a voulu peut-être revenir à quelque chose d'un poil plus épuré.
D'accord.
Pas tout le temps,
Ouais.
évidemment, mais
Autre élément important pour, en tout cas, c'est souvent parfois le premier contact avec les gens, le visuel, donc la pochette d'album. Donc vous avez travaillé avec Florian Le Guillou.
exactement.
Alors déjà, la pochette de Deadly Sins était déjà particulière, concept. Là, comment vous avez travaillé sur celle-ci?
Et ben concrètement, on lui a amené deux trois petites idées et on lui a demandé, voilà, on lui a dit, on lui a donné des couleurs. On voulait que ce soit quelque chose de très flashy, très un petit peu à la Blade Runner, tout ce genre-là, quoi.
Mais le
Ouais.
pitch, c'était mets-moi un musicien qui arrive devant une espèce de salle de concert avec effectivement une ville très futuriste Blade Runner derrière. C'était un peu comme ça ou?
Pour le front, c'était ça, ouais. On imaginait vraiment un mec de dos en face d'une ville, une espèce de mégapole immense, et c'était l'idée, quoi. Puis on avait vu des dessins qu'il avait fait, il avait fait pas mal d'illustrations justement très rétro futuriste, et on avait trouvé ça génial, quoi. Et on lui avait dit, voilà, nous on a cette idée-là, on aimerait que tu le fasses un petit peu avec cet esprit que t'as utilisé pour tes travaux personnels, quoi. Et il s'est occupé de tout il y a tout un artwork, il y a dans le livret, il y a pas mal d'illustrations qui illustrent certains morceaux de l'album, quoi. Donc il y a vraiment tout un petit univers en dessin qui est génial, quoi. Voilà, on a vraiment adoré ce qu'il a fait.
Finalement, tu t'occupes de lancer les travaux enfin, autour de la pochette. À quel moment dans la construction de l'album?
Et ben, on n'avait pas fini d'enregistrer là. Je savais que ça allait être long. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je crois qu'il a commencé la pochette il y a plus d'un an, quoi. Je sais plus exactement, mais je sais que je me souviens qu'on avait la pochette était plus ou moins finie, l'album n'était pas fini d'être enregistré.
D'accord.
On a tellement voulu, comment dirais-je, être sûr d'avoir tout en temps voulu que la voilà que tout l'artwork était fini avant l'album lui-même.
Donc il n'a pas travaillé à partir de démos aussi ou
Non, il n'a pas
du tout.
écouté une seule note.
Ah
On
d'accord.
lui a pas, on lui a pas envoyé une seule note. On
Ok.
lui a juste, voilà, montré. On lui a juste un peu parlé d'ambiance ou de film ou d'image qu'on aimait bien, et voilà, quoi. C'est dansé là-dedans et ça matche ça matche terriblement bien, quoi. Mais on s'est appuyé sur des visuels de films ou de choses qu'on aimait bien pour lui faire comprendre un petit peu ce que nous on voulait, ce que nous laissait imaginer ce que nous faisait imaginer notre musique, quoi. À défaut de lui envoyer l'album, quoi.
D'accord. Toujours dans le domaine visuel, vous avez proposé récemment, enfin récemment, quelques dernières semaines, deux clips pour Flesh Cemetery d'abord, puis Wacky Worms. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'expérience de la réalisation de ces deux clips vidéo?
Alors Flèche, c'est un clip qui a été réalisé en fait, qui a été réalisé par les élèves de l'INA, l'école de cinéma, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est eux qu'on fait vraiment le scénar et tout. Donc on était voilà vraiment ravis de cette expérience. Alors que Wacky, c'est quelque chose qu'on a voulu chapeauter nous-mêmes, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu, voilà, on a voulu le faire par nous-mêmes, quoi. Mais c'est marrant, Wacky, c'est très marrant. D'ailleurs, ça se voit à l'image quand on le regarde. Enfin, sans le savoir, je pense pas qu'on grille, mais on a commencé. Le tournage était sur 2 jours. On a commencé, on a fait la première journée de tournage. Et la pandémie est arrivée. Et en fait, il y a 7-8 mois entre les 2 journées de tournage.
Ah
Et
oui.
du coup, il y a certains plans où Flo a une barbe, où il a 10 kilos de moins. Il y a un autre acteur, d'un plan à l'autre, il a une moustache et après, il n'en a plus. Enfin, il y a des espèces de faux raccords à cause de ça. C'est marrant, ça devient marrant. Et on s'en aperçoit peut-être pas, mais en sachant ça, si tu regardes le clip, tu verras qu'il y a des... Il y a des différences
Ah bah
entre les
ouais,
personnages.
je vais regarder ça pour voir les détails, c'est marrant, ouais.
Exactement.
Ah
Mais
donc vous avez démarré un projet et vous êtes dit bah la suite on a aucune idée quand on pourra la faire quoi.
exactement, exactement.
Ah c'est
On
spécial quand
avait
même de pouvoir faire ça.
tourné, je crois, la première journée en mars, il me semble, et l'autre, c'est on l'a fait, mais en fin d'année, quoi.
Eh ben.
Donc vraiment, le résultat, il est marrant, quoi.
Mais donc, à ce que je comprends, j'allais dire, moi souvent les clips, parfois pour les artistes, c'est un mal nécessaire, et ils prennent pas tous forcément du plaisir à le faire. Vous avez plutôt, c'est plutôt chaque fois une bonne expérience?
Oui, c'est bon. Il y a pire, hein, il y a pire que chose dans la vie. Mais non, non, c'est sûr, c'était agréable. Bon, au bout d'un moment, quand ça fait 10 fois que tu joues le, 15 fois que tu joues le morceau devant une caméra, c'est peut-être un peu moins marrant. Mais le fait qu'on ait vraiment chapeauté, qu'on tout ça un petit peu par nous-mêmes, il y a eu une espèce de motivation aussi qui nous a un petit peu poussé. Voilà. Alors que quand c'est quelqu'un qui le fait, qu'il te suffit de suivre un petit peu le mouvement, bon bah voilà, c'est moins.
Ok.
Et voilà.
En termes de publication, derrière 33 Degrees, c'est vous?
Bah, pas du tout.
Ah, pas
Non,
du
non.
tout? Ah, d'accord, je
Non,
pensais que c'était vous en autoprod.
non. Non, non, pas du tout. 33 Degrees, c'est une boîte qui, à l'origine, fait venir des artistes d'Asie pour les faire tourner en Europe, en fait. Mais
Ah,
c'est pas
ouais.
du tout. Non, non, c'est pas du tout nous. Non, non.
D'accord.
On pourrait croire avec le nom.
Bah, ouais.
Mais non, non, c'est pas nous, non, non.
Parce que c'est. Parce que, en tout cas, il y a un truc qui est intéressant d'abord pour la France, c'est bah, le distributeur en France, c'est plutôt pas mal, quoi.
Ah ouais, carrément, hein. Bah c'est
Universal.
grâce, ouais, c'est grâce à lui qu'on l'a eu, hein. Ouais, carrément. Mais non, non, on y est pour rien, donc, pour le coup.
L'interview se termine, juste deux petites choses.
Ouais, dis-moi.
Donc, l'album est sorti il y a une grosse semaine. Quelles sont la première vibe, les premiers retours?
Ah, les chroniques sont excellentes. On est ravis pour l'instant. On est vraiment ravis.
D'accord.
Les
Et
chroniques sont, ouais.
bah, tant mieux, ça fait toujours plaisir.
Ah ouais, c'est clair.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Sous-entendu, qu'est-ce qui est prévu dans les tuyaux pour les semaines, mois qui viennent?
Bah, des beaux concerts déjà. Et puis, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de Madeleine un petit peu de Proust. Voilà, j'espère que les gens qui écouteront l'album, auront cette espèce de que ça leur fasse le même effet. C'est ce petit côté Madeleine de Proust qui retrouve un petit peu des éléments ou des sonorités ou des images qu'ils avaient un petit peu quand ils étaient mômes, quoi, en écoutant l'album, quoi. Donc, j'espère que voilà, ça fonctionnera sur eux.
Deux choses. Au niveau date tournée, il y a déjà des choses d'annoncer dans les tuyaux ou ça va arriver?
Alors, on joue la semaine prochaine au Forum de Montréal avec Psycup. On a un festoche hollandais en novembre, mais à cause de la pandémie, du coup, ça se fera sur Internet.
D'accord.
Et bon, après, y a rien de confirmé encore, mais il y a pas mal de choses qui se préparent pour la rentrée, enfin pour la rentrée pour début 2022.
Et vous auriez l'ambition de remonter un truc un peu à la Asylum Pizzaso ou pas du tout?
Ce sera pas aussi gros, je pense.
D'accord, ok.
Ce sera pas aussi gros parce que ça nous a pris du temps et de l'énergie et finalement, ce temps que ça nous a pris, c'est du temps qu'on n'a pas passé finalement sur la route, quoi. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de très coloré, de très, mais peut-être moins grandiloquent et imposant que Asylum.